Mes très chers amis, connaissez-vous la loi d'amour et de bonheur? Pour faire l'unité entre les chrétiens, il faut d'abord revenir à la parole de Dieu, sa vraie parole, et non pas une parole édulcorée. Ainsi, nous pouvons tous lire ce que certains commentateurs ont appelé la loi d'amour, cet extrait du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 25. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le Deutéronome continue. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous n'irez point après d'autres dieux, auprès des dieux des peuples qui sont autour de vous. Car Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu jaloux. La colère de Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point Yahvé votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez avec soin les commandements de Yahvé votre Dieu, ses préceptes et ses lois qu'il t'a prescrites. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de Yahvé afin que tu sois heureux. Nous constatons que c'est Dieu lui-même qui affirme que sa loi est la source du bonheur. Mais poursuivons. Lorsque ton fils t'interrogera un jour en disant « Qu'est-ce que ces commandements, ces lois et ces ordonnances que Yahvé notre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon et Yahvé nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Yahvé a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, contre Pharaon et toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères. Yahvé nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre Yahvé, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve en vie comme il le fait aujourd'hui. Et ce sera pour nous la justice si nous prenons garde à pratiquer tous ces préceptes de notre Dieu comme il nous l'a ordonné. » Nous constatons que, constamment, le Seigneur nous dit et nous redit que ses commandements sont notre bonheur. Pourquoi ne l'écoutons-nous pas? De plus, la loi du Seigneur est une loi d'amour. Or, un mode d'emploi est toujours obligatoire et irremplaçable lorsque l'on veut que quelque chose fonctionne correctement. Pensons par exemple aux machines ou aux médicaments. La loi d'amour du Seigneur concerne notre vie. La loi de Dieu, c'est le mode d'emploi de notre bonheur sur la terre. Il faudrait enfin que nous cessions de critiquer ce mode d'emploi de notre bonheur qu'est la loi de Dieu, mais que, au contraire, nous l'accueillions comme une des meilleures et des plus efficaces grâces que le Seigneur nous donne. La loi de Dieu est écrite dans la Bible. Nous voulons d'en lire un extrait. Lisons souvent la parole de Dieu. Nous y découvrirons des merveilles et tant de réponses à nos questions concernant l'immoralité ambiante. En effet, lorsque nous pensons à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, nous devenons soudain très tristes. Les lois ignobles que de très nombreux gouvernements du monde veulent nous imposer, lois dont le but, pas toujours avoué, est la destruction effective de la loi de Dieu et surtout du christianisme, ces lois ignobles nous brisent le cœur. Vers quel malheur les hommes se précipitent-ils? Pourquoi rejeter sans cesse les commandements de Dieu, commandements d'amour et de bonheur? Pourtant, il n'y a que de l'amour dans la loi de Dieu et dans les enseignements de Jésus. Jésus a dit peu de temps avant d'instituer l'Eucharistie « Mon âme est triste à en mourir. Pourtant, c'est pour cette heure que je suis venu. » Essayons de vivre avec Jésus en pensée. Regardons-le et aimons-le. Comment pourrions-nous ne pas être tristes quand nous voyons Jésus si triste? Jésus voyait tous les hommes qui refuseraient son amour. Jésus voyait les péchés se multiplier dans le monde. Jésus voyait tous ceux qui ne voulaient pas se convertir. Jésus a tout donné de lui, et les hommes ne veulent pas le recevoir. Seigneur, comment pourrions-nous ne pas être tristes avec toi? Comme si la nature elle-même voulait se mettre à l'unisson du cœur de Jésus et de ses souffrances, le climat dans le monde entier est complètement déréglé. C'est comme si la nature pleurait, elle aussi. Mais il y a pire. Considérons les malades mentaux. Nous constatons que la plupart de nos malades mentaux sont surtout des malades de leur égoïsme, dont ils n'ont même pas conscience. Ils ne voient pas, ils ne savent pas que leur détresse vient surtout du fait qu'ils ne connaissent qu'eux-mêmes. Ils n'ont aucune idée de l'existence des autres, sinon pour que ces autres les servent, eux. Ils ne savent pas que les autres peuvent aussi souffrir. Non, ils ne savent rien d'autre qu'eux-mêmes. Or, l'égoïsme ne rend pas heureux, au contraire, et il est souvent la source de nombreux déséquilibres. Jésus, au moment de chaque Eucharistie, se livre par amour pour nous. Il nous aime à la folie, mais il voit clair. Il sait que le monde ne sera jamais un paradis. Jésus voit combien ses disciples seront persécutés à toutes les époques, car, disait-il, comme lui a été persécuté, ils seront persécutés. Certains persécuteurs iront même jusqu'à croire qu'ils rendront gloire à Dieu en tuant des chrétiens ou ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est insensé, et pourtant c'est ce que nous vivons tous les jours. Outre les premières persécutions au début du christianisme, Jésus voyait les horreurs du communisme qui continue ses ravages dans certains pays. Jésus a pleuré sur des meurtres qui ont tellement souillé la France pendant la Révolution, et plus près de nous, le Mexique, livré aux athées de la franc-maçonnerie pendant les années 1925 à 1930. Jésus a pleuré sur les crimes du nazisme qui voulait détruire son propre peuple. Aujourd'hui, Jésus pleure sur les pays qui furent longtemps chrétiens, mais qui renient leur foi, se livrant ainsi aux méfaits de l'argent. Et aujourd'hui, il y a l'islam, dont les Occidentaux ne veulent pas reconnaître les crimes et les excès de toutes sortes. Jésus pleure aussi sur les lois abominables qui souillent tant de pays, et particulièrement la France, notamment sur l'avortement, le mariage gay, l'euthanasie et tant d'autres abominations. Réfléchissons un peu. Le mariage pour tous est-il cette abomination des abominations dont parle l'Écriture? Nos peuples sont manipulés, car ils ne comprennent plus les horreurs qui se passent ou qui se préparent. En effet, on ne parle plus avec des mots, mais avec des initiales que l'on ne sait pas toujours traduire et qui donnent souvent libre cours à des contresens épouvantables. Il y a aussi les puces électroniques qui pourraient bientôt être greffées sur les hommes. Ainsi, la liberté individuelle n'existerait plus. Le satanisme de ces puces est-il déjà à l'œuvre? Mais arrêtons-nous un peu sur la nocivité éventuelle de ces puces. Au fond, ces puces électroniques ne sont que des composés de matière. Par elles-mêmes, elles sont inertes. Mais utilisées comme des outils, elles pourraient devenir redoutables et supprimer toute liberté. Alors, pourquoi, au contraire, ne pas les utiliser autrement? Ces puces ne pourraient-elles pas devenir des instruments d'évangélisation? L'Église avait eu peur de la liberté de la presse. Elle eut peur de la radio et de la télévision, tous ces outils qui répandraient les erreurs et les mensonges de Satan. Puis l'Église eut peur d'Internet. Mais maintenant, nous devons comprendre que ces outils pourraient devenir des moyens importants pour évangéliser les peuples. Alors, les puces, faut-il les rejeter tout de suite et d'un seul coup? Ou bien faut-il, au contraire, demander à des savants chrétiens de les étudier à fond, en vue de pouvoir les utiliser pour répandre la bonne nouvelle du salut? Et nous? Tout d'abord, commençons à prier, intensément, pour la défense de la famille et l'unité de l'Église. Pour des raisons inexplicables, Dieu a été chassé de notre civilisation. Pourtant, tous les jours, chacun d'entre nous constate la gentillesse des gens quand nous sommes gentils avec eux. Oui, Dieu a créé l'homme bon. Oui, les personnes sont fondamentalement bonnes, mais elles sont très vite déformées par le milieu ambiant et l'action destructrice des médias menteurs. Les déformations introduites dans les informations sont terrifiantes, mais notre Église se tait. Pourtant, déformer des informations vraies, taire d'autres informations qui gênent les pouvoirs en place, ne pas rectifier des erreurs prononcées par excès de zèle, toutes ces choses sont des mensonges. Nous vivons en permanence dans le mensonge et nous n'en pouvons plus. Notre monde sème la haine qui génère le malheur. Les hommes d'aujourd'hui sont inquiets et malheureux. Mais si nous les regardons avec un cœur plein d'amour, soudain nous constatons qu'ils savent être gentils, prévenants même. Certains ont dans leur cœur beaucoup de charité. Pourtant, ils ont comme perdu l'amour véritable qui transforme toute vie. Ils ne connaissent pas Dieu, et ceux qui ont encore la foi sont tournés en dérision. Certains de nos prêtres jeunes voudraient faire quelque chose, mais que de bâtons dans les roues on leur met. Les congrégations religieuses n'ont plus de vocation, et elles se meurent. Peu à peu, nous prenons conscience de ce qui s'est passé depuis plus de 40 ans, au moins en France, et qui est à l'origine de nos détresses. Nous nous apercevons que, tout au moins en France, les hiérarchies catholiques ont erré. Se sont-elles volontairement engagées dans une voie diabolique ou ont-elles été trompées, elles aussi? Aujourd'hui, nous sommes encore incapables de répondre. Seigneur, nous ne comprenons plus rien. Nous nous sentons de plus en plus perdus. Les chrétiens fervents vous aiment toujours et ils voudraient tellement que tous les hommes vous aiment. Jésus, cela, c'est votre plus cher désir à vous aussi. D'ailleurs, votre amour pour nous vous a conduit sur la croix. Vous vouliez nous sauver tous de l'enfer. Or, aujourd'hui, on ne croit plus à l'enfer. Pourtant, vous, Jésus, vous nous en avez tellement parlé de l'enfer, de nos fins dernières, de Satan et de ses mensonges. Alors, Jésus, pourquoi, actuellement, semblez-vous ne rien faire ? Jésus, venez vite nous sauver tous vos enfants, qui sont tous l'œuvre de Dieu. Certes, il y a l'ivraie. Nous comprenons bien votre parabole, mais nous ne comprenons pas pourquoi vous laissez Satan fabriquer cet ivraie qu'il jette parmi les hommes pour les tuer. Car vous, amour, vous ne pouvez pas créer des êtres pour l'enfer. Mais qu'est-ce que l'ivraie ? En agriculture, c'est une mauvaise herbe, très envahissante, qui étouffe les bonnes plantes. Dans le langage de Jésus, l'ivraie, ce sont les tentations, les mauvaises idées que Satan répand pour détruire l'humanité. Seigneur, pourquoi voulez-vous que nous laissions croître en même temps l'ivraie et votre évangile? Pourquoi voulez-vous que Satan étouffe la loi de Dieu? Seigneur, venez nous éclairer et nous sauver. Hâtez-vous, Seigneur, le temps presse de plus en plus. Les manifestations se multiplient contre le mariage gay et les lois ignobles. Mais il y a aussi, hélas, des manifestations en leur faveur, et les médias continuent à mentir. Oui, les chrétiens français se réveillent, mais ils ont bien du mal à se faire entendre. Il faudrait aussi que les hommes d'église se réveillent. Leur inertie pose beaucoup de questions. Seigneur, par pitié, réveille ton église, réveille nos prêtres pour qu'enfin ils osent dire la vérité. Car dès que les hommes redécouvront la loi de Dieu, loi d'amour et de bonheur, alors de nouveau ils seront heureux et ils pourront devenir des saints.